Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bonjour tout le monde, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire de discussion de jeux de rôle, jeux de société et culture geek. Ici Alexandre Bélanger et j'ai mes trois co-animateurs habituels. Nathan Saint-Pierre, comment ça va?
Ça va bien toi?
Ça va bien. Alexandre Racine, comment ça va?
Super!
Et Gauparent, comment ça va?
Toujours bien.
Pour vous rappeler, moi et mes trois collègues, on est tous membres exécutants du club de jeux de rôle et société de Sherbrooke.
Comme il va appeler CJRSS.
CJRSS. Et pourquoi je commence avec ça cette semaine, c'est qu'il y a eu quelque chose de spécial jeudi passé. Nathan, tu veux-tu nous en parler un petit peu?
Oui, en effet. Donc, jeudi passé, il y avait le gala de...
Force à venir.
Non, c'est pas Force à venir. Non, Force à venir et la semaine prochaine. Donc, c'est le gala qui...
De l'engagement de la vie étudiante.
L'engagement de la vie étudiante. Merci. Qui se déroulait et le club a reçu un prix cette journée-là qui est pas dans les prix remis normalement. Donc, c'est comme un prix, genre le SVE voulait...
Comme une espèce d'Oscar pour la somme de ta carrière.
Exactement.
Qui a été nominé plusieurs fois, mais qui n'a jamais rien gagné.
Exactement. Donc, c'est vraiment juste le SVE tenait à nous remercier parce qu'on anime des activités dans l'école en plus de nos soirées les mercredis soirs.
Ils nous ont remercié en fait pour notre implication sur le campus, la vie étudiante et les efforts qu'on fait pour devenir plus important un peu partout sans être quelque chose qui change le monde, comme les gens qui gagnent les prix. D'ailleurs, j'aimerais féliciter tous les lauréats qui ont gagné des prix lors de ce gala-là. Vraiment des gens exceptionnels et inspirants qui ont fait des projets qui vraiment aident plusieurs personnes sur le campus. Mais le fait qu'on a gagné un prix qu'ils ont inventé sur place prouve que même si on n'est pas des grandes choses qui changent activement la vie des gens, on a quand même une place dans la vie de campus puis aider les gens à socialiser puis à avoir du plaisir sur le campus de Sherbrooke.
Des fois, c'est pas nécessairement les grandes choses. Les grandes choses peuvent avoir des impacts. Mais les petites choses à tous les jours, la persistance, c'est quand même quelque chose qui peut être remarqué. Puis ben moi, je remercie beaucoup mes... collègues du SVE, d'avoir pensé à mon regroupement et mes amis exécutants qui se donnent quand même pas mal là, pour un club. Puis ben en même temps, ben Alexandre dit merci à toute sa gang. Fait que on commence avec ce petit moment touchant, mais on va vite revenir dans notre geekness. Hein, on a une habitude qu'on avait plus ou moins perdue. On va continuer. Qu'est-ce qu'on a joué cette semaine?
Je peux commencer. Personnellement, je vous cacherai pas que moi et Arkham Horror, c'est rapidement été une histoire d'amour. Fait que j'ai récemment complété une des campagnes les plus difficiles du jeu. Fait que je suis quand même assez fier de moi.
C'est important de parler qu'on parle aussi du jeu de cartes.
Le jeu de cartes d'Arkham Horror.
Oui, ben la nouvelle version. Le truc actuel de Fantasy Flight. Dirais-tu qu'il est rendu dans ton top 5, Arkham?
Ah oui, absolument. C'est très très plaisant. Faut quand même remarquer que c'est un jeu qui coûte extrêmement cher à jouer, on se le cachera pas, mais très plaisant.
C'est le style de hobby que j'ai pas d'argent, parce que ça va tout dans ça. Alexandre Racine, t'as joué à quoi cette semaine?
Mais moi, j'ai joué à Terraforming Mars avec toi.
Oui.
Sinon, j'ai pas joué à grand-chose d'autre, malheureusement. Plutôt occupé dans... d'autres.
Mais t'as des games de jeux de rôle en
masse. Ben évidemment, j'ai trois parties de jeux de rôle, mais j'en ai juste deux qui ont eu lieu la semaine passée.
Mais ça compte, ça.
Tout à fait. C'est geek, c'est juste pas des jeux de société.
Nathan?
Pour ma part, bien hier, on a eu une autre soirée de jeux de rôle avec Hugo. La campagne avance bien. Et sinon, j'ai joué à Dune Imperium Uprising à 6.
Avec trois nouveaux joueurs.
Avec trois nouveaux joueurs, je déconseille, assurez-vous d'être 6 à savoir jouer autour de la table. Ça rend le jeu un peu chaotique quand tu expliques à tes nouveaux joueurs.
Quand je t'ai vu sortir avec 6 personnes, j'ai dit, mais c'est sûr qu'il va se péter le gros panda, il va faire jouer une gang à Imperium, puis une gang à Dune, avec une gang, je veux dire, à Uprising, puis une gang avec Imperium, puis un ou deux... Non, 6 avec 3 newbies, c'est comme « Oh my God ».
Ça s'est quand même bien déroulé, c'est juste que la partie a été un petit peu plus longue parce que bien fallait expliquer les règles aux nouveaux. Et aider les nouveaux en cours de route, parce que là, sinon, c'était comme... Ils savaient pas trop quoi gérer.
Il y a quand même quelque chose d'étrange à expliquer un jeu à quelqu'un, puis quand la partie commence, tu joues exactement pas du tout comme tu l'as expliqué, parce que toi, tu joues un autre rôle, puis là, il est vraiment confus.
Oui, c'est ça, parce que là, le 5e et 6e joueur ont des rôles particuliers. Ils jouent pas sur le même board que tout le monde, mais ils jouent en même temps, donc c'est... C'est un petit peu particulier, là, mais sinon, ça s'est bien passé.
C'est bon. Donc, cette semaine, là, je vais faire une petite chronique d'actualité et de geekness, comme d'habitude. Hugo va nous présenter la mécanique de pliage. On va vous parler de quelques petits jeux, entre autres de Duck Crew et de Happy City. Et un troisième, si on a le temps, parce qu'on n'est pas sûr de notre temps cette semaine. Et Nathan va nous présenter Starfinder, le jeu de société.
Exactement.
Le jeu de rôle. Je vais déparler aujourd'hui. Commencer par ma petite chronique de geekness. Bon, tout d'abord, on va mentionner qu'on vous a passé 3 semaines à vous présenter les multiples jeux de Dune. Et cette semaine, surprise, on va sur le hotness de BGG. Et dans le top 20, il y a 5 jeux de Dune.
Qui aurait pu le voir venir vraiment, là?
C'est fou, je savais pas qu'on avait autant d'influence. Non, c'est une blague. Mais dans le fond, on a Dune Imperium normal. On a le Dune Uprising, qui est dans le top. On a Dune War for Arrakis, qui est le jeu de Conde, qui est essentiellement un reskin du War
Rebellion.
For the Ring.
Ouais, ou Rébellion. Je me suis fait promettre une partie d'ailleurs et qui n'a toujours pas lieu.
Ça sent bien, là. Et on va trouver un petit moment, là.
Peut-être autour du 7 avril.
Sinon, pas que ça en vient, hein?
Mm-hmm.
4 jours de congé, on a ce moment-là. Il y a le bon vieux jeu Dune, qui est dans le top, là, la patente qu'on vous a présentée qui prend 6-7 heures. Là.
On parle du jeu ici qui a autour de 40 ans, là?
Là, il y a un reskin qui date de 2019. Fait que c'est okay. Le reskin qui trend dans BGG.
Parce que c'est quand même comique un jeu de 40 ans qui trend sur le hotness.
Mais c'est essentiellement ça. Parce qu'il y a pas. Il y a eu des expansions, des trucs comme ça, mais le jeu de base est essentiellement identique. Là. Fait que j'ai dit 5, mais c'est 4. À moins qu'il y en ait un autre que j'ai pas vu, là, mais bon, c'est ça. Mais 4 sur 20, c'est quand même pas pire. Là, je veux
dire.
C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mmh.
Ça, en tout cas, moi, je suis Legendary Picture présentement. Là, je regarde ma section jeux de société, puis tu vois, ils me font nommer de l'argent. Ça. Parce qu'on s'entend, là, quand un jeu trend, c'est pas juste parce que le monde joue, c'est parce que le monde l'achète.
Mm-hmm. Ouais.
Donc, fait que ça, c'est le petit côté geekness. Puis, une autre chose que je voulais parler aussi, que, dans le fond, on a Hugo qui fait la chronique du garage, mm-hmm. mais des fois, on a des termes pas tout à fait de garage, mais très geek. Puis, je me rends compte qu'on les utilise souvent, qu'on vous en a pas parlé. C'est quoi? C'est la différence, c'est les grades de beurre de peanut.
Oui.
On a smoothie, puis on a crunchy.
Ça veut dire quoi, ça, vraiment, la différence entre smoothie et crunchy?
Mais dans le fond, c'est un petit peu le feeling en bouche de quand tu le manges. C'est-tu smooth? Est-ce que ça craque? Et là, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quand ça craque, c'est quelque chose que tu as absolument besoin de mâcher. Puis quand c'est smooth, tu peux juste l'avaler si tu veux.
Donc, c'est pas mal plus facile et digérable si c'est smooth.
Si c'est smooth. Mais, en termes de jeu de rôle, jeu de société, si c'est smooth, c'est moins utile.
Oui.
Dans le fond, on va souvent avoir du matériel dans un jeu qui va nous présenter les règles, comment ça fonctionne, c'est quoi la mécanique en arrière. Ça, c'est du crunch. Okay?
C'est des choses qu'il faut lire et relire pour s'assurer d'avoir bien compris.
Exactement. Et on a souvent de la mise en contexte, des petites histoires cute, des scénarios, des choses comme ça, mais qui sont pas nécessaires à l'apprentissage puis à la maîtrise du jeu.
J'ai des belles exemples tantôt, justement.
Dans Starfinder.
Là, Starfinder, on a des belles exemples pour ça. Là, je peux vous en donner une. Par exemple, des statistiques sur la taille d'une planète. Ça sert absolument à rien en jeu, mais sont là.
Fait que ça, c'est du smooth, tandis que tu vas avoir du crunch. Essentiellement, la chronique de Hugo, c'est essentiellement du crunch.
C'est pas mal.
Comment une mécanique fonctionne, ouais. Comment on... Puis souvent, on va rater un jeu sur comment crunchy il est. On a l'indice de crunch de BGG, qui n'est pas un indice linéaire, soit dit en passant. Là. C'est un indice logarithmique. Là. Fait que 1, c'est comme à peu près n'importe qui a 3-4 neurones qui fonctionnent, peut
2,
jouer.
2, ça s'explique à peu près à n'importe quelle famille.
C'est ça. Deux, je dirais que c'est un jeu 10 ans en plus. Là, on tombe à 3, où là, ça commence à devenir des board games assez sérieux. Là, on tombe à 4, c'est comme, OK, t'as-tu 2 heures que je t'explique toutes les nuances de ce qui se passe en arrière? Puis il n'y a pas de jeux qui sont ratés 5 encore.
Mais non, quand mais on est au-dessus de 4, c'est parce qu'il y a des gens qui lui ont donné un 5. Puis quand on est à quand les gens évaluent que c'est un 5, c'est que 2 heures, ça sera peut-être pas assez. Puis quand tu vas avoir fini ta première game, tu vas toujours pas avoir compris la plupart des mécaniques.
C'est ça. Moi, je dirais qu'un 5, c'est le proverbial Warp 10 dans Star Trek. Si vous êtes un Trekkie, vous me comprenez. Si vous n'êtes pas un Trekkie, ben vous ne comprenez rien. Et c'est l'ultime smooth. Sur ce, ben, on est déjà rendu au cœur de l'émission, les boys. Parce que quand tu commences à E4, puis il faut que tu te rendes à E4, tu as juste 11 minutes à faire. Fait que c'est le temps de faire notre première petite pause, aller payer le loyer, et on vous revient après la pause avec le reste de l'émission. Et on est de retour en onde à Ludo Radio à CFAC 88.3. Avant la pause, on a divagué un peu de quoi qu'on joue, puis on s'est flatté un petit peu les épaules avec le prix qu'on a reçu de la part des services à la vie étudiante. Mais là, on va commencer avec le vrai contenu de l'émission. On commence par, cette semaine, la chronique du garage. Et Hugo qui va nous parler de mécanique de pli.
Et oui, cette semaine...
on parlera pas d'origami, là.
On parle pas d'origami ici, là, on fera pas du pliage de papier. Ça a différents noms, les jeux de pli, les jeux de levée. Si jamais vous jouez plus en anglais, vous l'avez peut-être entendu sous le nom de « trick-taking ». En gros, la mécanique du jeu est que vous tentez de gagner des manches en jouant la meilleure carte possible. Vous comprendrez donc que tous les jeux de pli sont essentiellement des jeux de cartes et ça retourne essentiellement à dans le temps que les jeux de pli étaient des jeux de cartes de base. Depuis, évidemment, il y a eu plusieurs jeux de société qui ont repris la mécanique et qui l'ont adapté à différentes saveurs. Mais laissez-moi vous présenter un peu comment ça fonctionne. En gros, les jeux de pli, comment ça va fonctionner? Il va y avoir une frime dans votre suite. Donc, si on se réfère à un jeu de cartes standard, le cœur, pique, carreau, trèfle, une des 4 suites sera une frime qui gagne sur les autres. Par la suite, tout le monde va avoir une certaine quantité de cartes dans sa main. Pour des jeux tels que, par exemple, le 500, tout le monde commence avec le... Si vous jouez à 4, tout le monde commence avec le corps du deck, du paquet de cartes. Et vous allez devoir, à tour de rôle, jouer une carte. Comment ça fonctionne? Pour gagner, il faut que tu joues la carte la plus haute. Donc, le premier joueur qui va jouer la première carte va faire ce qu'on appelle « ouvrir le pli » ou « ouvrir la levée » et va jouer une carte d'une suite. Donc, pire, cœur, trois ou trèfle, et pas nécessairement la frime. En général, si vous avez alors une carte dans la même suite, donc si par exemple, c'est moi qui ouvre le pli autour de la table et que je joue avec du trèfle. Si Al, qui devrait jouer après moi, a du trèfle dans sa main, il doit lui aussi jouer du trèfle. Pour gagner, Al doit jouer une carte en trèfle de plus haute valeur que moi. Donc, si j'ai joué un 6 de trèfle, pour me battre, Al devrait jouer un 8 de trèfle ou plus haut.
C'est le paquet valeur, mais où est-ce qu'il faut qu'on respecte les sortes de cartes?
Exactement. Par contre, si, par exemple, je joue mon 6 de trèfle, Al joue son 8 de trèfle et on se ramasse à Nathan qui n'a pas de trèfle dans sa main.
Ben, je suis pas chanceux dans la vie, moi.
Mais c'est pas nécessairement que t'es pas chanceux. T'es peut-être plus chanceux que les autres, en fait, parce que à ce moment-là, tu peux jouer n'importe quoi. Tu joues une carte dans ta main, peu importe. Si tu joues dans la frime, donc si, par exemple, la frime était en carreau et que tu joues du carreau, tu nous bats toutes automatiques.
OK, même peu importe le carreau, je mets un 2 de carreau, je vous bats quand même.
2 de carreau,
bah. Même si après ça, je mets un roi de trèfle.
Même si après ça, on joue un roi ou un as de trèfle, dépendamment de c'est quoi qui gagne le plus haut. La frime gagne pour gagner. L'ordre de priorité est donc la valeur la plus haute dans la frime. Donc si par exemple, Alex jouerait par la suite un 8 de carreau, il battrait quand même Nathan qui a joué du 2 de carreau, mais notre roi de trèfle ferait absolument rien.
Mais pour pouvoir jouer mon 8 de carreau, il faudrait que moi aussi je n'ai plus de trèfle.
Effectivement. Donc, c'est un jeu dans lequel il faut que tu réfléchisses un peu à quel pli tu veux jouer, quand est-ce que tu veux gagner, parce que parfois, ça arrive que si tu joues dans la mauvaise couleur, tu te ramasses avec que la mauvaise couleur et que tu ne peux jamais gagner de pli. Donc, il faut que tu fasses attention quand est-ce que tu joues tes cartes. La manière générale de gagner, pour la plupart des jeux, c'est que la personne qui va gagner le pli va ouvrir la prochaine main. Et pour gagner, ça va être en général celui qui a gagné le plus de plis. Ce qui signifie qu'on joue tous une carte, la carte la plus haute gagne, et ça, c'est ce qu'on appelle un pli. Et à la fin, une fois que plus personne n'a de carte dans sa main, la manche est finie. On compte les plis gagnés. Okay. Et comment on gagne, ça va dépendre du jeu.
Donc, la stratégie n'est pas nécessairement faite à chaque round. On va faire une stratégie qui est plus basée sur qu'est-ce qu'on veut qui se passe en milieu de game puis en fin de game, en fonction de ce qu'on a dans notre main.
Mais en fait, on pourrait séparer la plupart des jeux sous forme de round et subdiviser un round en plusieurs plis. Donc, il faut que tu réfléchisses durant un round à tous les plis qui vont se produire durant ce round-là, pas à juste un seul, parce que gagner un pli sur 12 te fera pas gagner le round.
Je vais faire un parallèle, si tu me permets. Dans le fond, si on joue bon vieux jeu de cartes, le trou de cul, généralement, les stratégies reconnues, c'est tu vas jouer tes plus petites cartes en commençant, puis à la fin, mais tu vas essayer de prendre l'initiative, de mettre tes grosses cartes. Puis bloquer tout le monde, empêcher les autres de jouer pour terminer le premier.
Exactement.
C'est un petit peu le même principe, mais à la place de gérer des paires puis des chiffres, on va gérer des couleurs.
Mm-hmm.
Puis dans le fond, du carreau trèfle, des chiffres. Puis essayer de s'en aller dans ça. Alors, c'est intéressant. C'est pas une mécanique que j'étais très familier.
C'est un jeu, c'est une mécanique de jeu assez ancienne. On se le cachera pas. Pour les gens qui jouent à des jeux de cartes, tout simplement le 500 qui est très commun au Québec, mais plus historiquement le bridge ou la belote sont les jeux de cartes initiales qui ont créé ce genre-là. Depuis, il y a des jeux de société tels que Cat in the Box, Jekyll vs Hyde, Le Roi des Nains ou encore The Crew.
Ou Wizard, qui serait aussi populaire.
Et Wizard, qui reprennent cette mécanique-là et l'embellissent de différentes manières. Honnêtement, je pense que je vais garder ma question pour après notre petite présentation de jeu pour approfondir la mécanique de pli avec Alex.
Alex, 7 minutes, c'est assez pour présenter The Crew.
Oh, c'est en masse. Je voulais aussi rajouter en nuance que dans certains jeux de pli, l'objectif est de ne pas faire de pli.
Mm-hmm.
Ce qui est important pour la présentation de The Crew. The Crew est un tout petit jeu bien sympathique qui se joue en famille, qui se voit attribuer le rang 37 sur BGG avec une note de 8.2 si on regarde The Crew Mission Deep Sea, c'est-à-dire l'équipe sous-marine en gros, parce qu'il y a trois versions du jeu au moins.
OK. Puis ils n'ont pas toutes le même rating?
Non, il y en a qui ont des sous-mécaniques qui sont plus intéressantes que d'autres. Donc ce qui fait que The Crew normal est un peu moins bien raté. Puis The Crew Search for the Ninth Planet, ou quelque chose comme ça, est aussi un petit peu moins bien raté. Celui qu'on a au club, c'est celui-là, Mission Deep Sea. C'est le mieux apprécié dans la gang. Et ça lui donne une difficulté de, tenez-vous bien tout le monde, 2.04.
Ouf, c'est compliqué.
Donc, quelque chose d'assez simple. Il va aussi attribuer le premier rang pour les jeux familiaux. Donc, c'est un jeu familial, facile à jouer. Idéalement à 4, mais peut jouer jusqu'à 5. En quoi ça diffère d'un jeu de pli ordinaire? La grosse différence, si on regarde par exemple le trou de cul que tu as nommé tout à l'heure, c'est que chaque personne a aussi, comme dans ce jeu-là, un rang qui va de capitaine à plus bas, mais le jeu est coopératif.
Oh.
La grosse nuance, c'est que tout le monde a une mission attribuée selon son rang qui va devoir faire, mettons, faire une levée en vert, faire deux levées en bleu, ne pas faire de levée. Puis chaque personne doit réussir sa mission, puis c'est un jeu coopératif. Le problème, on voit pas les cartes des autres. On voit son paquet et il faut que tout le monde réussisse sa mission.
Et est-ce qu'on a le droit de parler, de communiquer?
On a le droit de parler sur certains faits, mais on n'a pas le droit de dire les cartes qu'on a.
Ah.
Donc, le but est de réussir à faire ses missions, d'aider les autres à faire leur mission. Puis une fois que tout le monde a fait sa mission, on peut arrêter la manche parce qu'on a gagné. Donc, on n'a pas besoin de se rendre à la dernière carte à chaque fois, à moins que quelqu'un ait la mission « Fais la dernière levée ». Dans ce cas-là, il va falloir se rendre à la fin inévitablement.
Parce que sa mission ne peut pas être terminée avant la fin. Donc,
La mission est visible.
Okay.
Donc, ça au moins, on sait ce que la personne doit faire. Donc, supposons que tu vois quelqu'un qui a une mission, faire une levée en bleu, puis qui joue une carte bleue. Si tu as plus haut puis plus bas, joue donc plus bas.
Effectivement.
Donc, c'est un jeu quand même intéressant avec des sous-mécaniques que malheureusement je ne connais pas pour la mission Deep Sea, puisque j'ai juste joué à la version de base sur ordinateur. Donc, il y a des mécaniques qui se rajoutent avec les rôles, qui sont super intéressantes, puis qui complexifient le jeu. Puis, en gros, l'idée, c'est que avec chaque boîte, il y a une série de missions qu'on peut faire dans l'ordre qui vont nous mener de apprendre à connaître le jeu jusqu'à maîtrise complète du jeu. Donc, il y a une espèce de legacy ou tutoriel dans la boîte qui est vraiment intéressant.
Un peu comme Rush Hour, mais qui n'est pas un jeu de pli, mais qui commence vraiment facile et qu'à la fin, c'est vraiment complexe, mais c'est pour t'apprendre à jouer, grosso modo.
Voilà. Donc, ces mécaniques-là sont incluses dans la boîte puis permettent d'avoir du plaisir pour une quand même courte période, parce que ça se joue quand même rapidement comme jeu, mais avec, c'est ça, 3 à 5 personnes. Donc,
un jeu
intéressant.
Oui, absolument.
Probablement le seul jeu coop.
C'est vraiment intéressant, puis c'était un peu aussi ma question du style que dans les jeux que j'ai nommés, ils ont vraiment réussi à reprendre la mécanique de jeu de pli de différentes manières, parce que justement, à The Crew, c'est coop. À Jekyll vs. Hyde, c'est un contre un, ce qui, pour certains, vont dire, ben si j'ai la moitié du deck et que mon adversaire a l'autre moitié, je sais ce qu'il y a. Mais qu'ils introduisent quand même des mécaniques pour comme mettre un peu de hasard et d'incertitude dans les mains. T'as Cat in the Box qui est compétitif, mais un peu du style à The Crew, qui est de difficulté progressive, etc.
Donc, Wizard, ce que j'aimais bien de ce jeu-là, c'est que tu fais des points seulement si tu as prédit le nombre de levées que tu allais faire puis que tu as raison.
Exactement.
Donc, il y a une partie de prédiction puis de push your luck un peu, de dire je pense que je suis capable de faire 4 levées, fait que je vais faire 4 points si j'ai raison, mais est-ce que je dis juste 3 puis je suis plus safe? Il y a quelque chose d'intéressant avec ça aussi.
Ce qui m'emmenait à la petite question, vraiment pour le plaisir, pour ceux qui ont joué à des jeux de levée ou qui sont intéressés par ça, est-ce que vous préféreriez des jeux de levée compétitifs, genre extrêmement compétitifs, vraiment mécanique, ou encore, si vous préférez, des jeux plus coop, qu'on réfléchit, on s'amuse un peu dans vos jeux.
Moi, j'ai du post-traumatisme de bridge, d'avoir joué au bridge à 11 ans, d'avoir mangé la pire volée possible, de genre à jouer avec des gens qui étaient t'es pas bon, puis c'est comme non, merci. Tellement que je pense que j'ai probablement consciemment évité des jeux qui ont cette mécanique-là. Mais probablement que je devrais leur redonner une chance.
Je te dirais un peu comme Al, moi aussi, j'ai appris ce genre de jeu-là très jeune, puis comprenant pas trop ce qui se passait, je gagnais rarement. Les gens me disaient pas que j'étais pas bon, mais c'était différent. Quand même moins agréable un peu.
T'es arrivé à cette conclusion-là par toi-même.
Exactement.
Différentes générations. Moi, j'avais tiré la conclusion et elle a été renforcée par les adultes.
Ouais.
Pour moi, en fait, les jeux de levée, ça me rappelle des souvenirs avec ma grand-mère et mon arrière-grand-mère qui était vivante à ce moment-là. C'est un jeu qu'elle aimait beaucoup où il fallait faire le moins de levées possible. Puis pour moi, c'est ça. C'est un jeu familial, c'est un jeu fun qui se joue lentement mais qui est compétitif puis qui réunit des générations puis des gens différents autour de la table pour quelque chose de simple, mais sympathique.
Oui, puis honnêtement, ça s'approchait pas mal de ce que je voulais dire aussi. Là, personnellement, c'est que je trouve... Tu sais, il n'est pas top 1 dans les jeux familiaux pour rien. Là. Les jeux comme ça sont des jeux extrêmement familiales, simples. Vos parents, vos grands-parents ont probablement déjà joué à des versions similaires. Donc, quand vous allez leur présenter ce jeu-là, vous pouvez aisément les faire jouer facilement. Puis c'est une belle opportunité de présenter des gens qui sont moins habitués à des jeux de société au monde des jeux de société.
Mais je pense que je pourrais parler pour la majorité du monde ici en disant que quand je me dis « Hey, je m'en vais jouer à un jeu de société au club », c'est peut-être pas le premier type de jeu qui me vient en tête. Je m'attends à quelque chose, comme on vient de nommer plus tôt, avec plus de crunch.
En effet.
Mais ça peut être génial pour la famille, effectivement, comme tu disais, introduire des gens.
Et ça finit bien la soirée d'un jeu qui est un petit peu plus difficile aussi.
Oui.
Donc, c'est maintenant l'heure de la deuxième pause. On va aller aux nouvelles et au sport et on vous revient dans quelques minutes. De retour en ondes de Ludo Radio pour notre deuxième moitié d'émission. Avant de quitter, on a parlé de mécanique de pli, on a parlé de crew, puis on a parlé un petit peu du CGRS, ses activités, puis de crunch, puis de smooth. Et là, on est rendu à notre deuxième présentation de jeu de la semaine, parce que ben, de crew, c'est pas exactement très compliqué. Fait qu'on a choisi d'en avoir un autre pas trop compliqué aussi pour vous en parler dans le fond.
Petite semaine de jeu simple, en gros.
Oui, en effet, en effet. Ça a comme à donner comme ça.
C'est si bien. On voit quoi cette semaine?
Alors, cette semaine, je vais sortir ce que j'appelle l'élémental de cuteness. Le jeu s'appelle Happy City. Plein de belles petites vibes, bien, bien, bien fun. Alors, qu'est-ce que vous faites dans Happy City? Dans le fond, c'est un petit jeu de cartes avec des mécaniques de open drafting, de market. Et le but, c'est de bâtir une ville de 10 immeubles. Et des immeubles vont vous donner différents, vont contribuer de deux façons sur votre score. Le bout qui est intéressant de Happy City, c'est que, dans le fond, vous avez une population. Puis vous avez des points. Puis à la fin, on va multiplier les deux.
OK. OK. Fait que ça fait des scores à gros points.
C'est un score matriciel.
OK.
Fait que dans le fond, si j'ai 5 buildings à points, mais j'ai juste une population, j'ai 5 points. Mais je suis capable d'aller me chercher un building à 2 populations de plus et le mettre dans ma ville avant la fin de la partie. Mes points passent de 5 à 15.
OK. Fait que ça monte vite.
Ben, ça monte vite si tu te rapproches du carré. Ben, si à la place d'avoir cherché 2 de population, tu es allé chercher 2 autres de points, ben, au lieu de passer de 5 à 15, tu serais passé de 5 à 7.
Okay. Exactement. Et comme c'est un open market draft, ben, on n'a pas toujours les sortes de points qu'on va aller chercher. On n'a pas toujours les trucs qui vont contribuer. Et c'est aussi un jeu où on a du revenu. Donc, si on n'a pas le revenu pour acheter la bâtisse, on n'a pas les sous en main, c'est-à-dire pour acheter la bâtisse, ben on pourra avoir la carte qui va nous faire gagner, pas avoir assez d'argent. Et là...
Et pleurer un peu dans son coin.
C'est ça. Et la prochaine personne qui va jouer après nous, si elle est wise, ben elle va nous l'enlever. c'est un jeu qui, dans le fond, a deux phases, qui est super simple. Vous avez une phase de revenu où tout le monde va ramasser ses sous. Le token de premier joueur va se promener. Fait que c'est un premier tour rotatif. Puis, dans le fond, on a l'open market. Puis, avec nos sous, on a le choix d'aller chercher une scène de plus. Soit de jeter une carte du market pour la remplacer par on sait pas quoi. Soit d'acheter une carte qui est sur le market avec l'argent qu'on a. On la place dans notre ville et à 10 cartes, on termine le tour. La partie est finie.
Donc, la première personne qui se rend à 10 bâtisses dans sa ville déclenche le dernier round.
Exactement. Okay. Il y a une petite mécanique de mitigation de ce qui est le premier joueur. Fait que c'est des éléments assez classiques. C'est le fun. Mm-hmm. C'est pas trop lourd dans le fond, c'est un crunchy. Hein? Maintenant qu'on a expliqué c'est quoi, on va pouvoir l'utiliser. C'est un crunchy d'un point 23. Fait que c'est dans le C5. Familial aussi. Joue de 2 à 5. Le meilleur, c'est 3 à 4. Moi, je pense que j'ai le plus de fun à ce jeu-là à 3. Okay. Il y a une petite expansion qui s'appelle... c'est Easy là qui, je pense, qui dans le fond introduit des monstres qui détruisent des bâtisses.
Ah, pour rajouter un peu d'aléatoire dans le plaisir.
On a un score de 6.6, puis on est sur le 2739e sur BGG. Bon, moi, je pense que le jeu il est underrated un petit peu.
Mais c'est sur BGG, un crunch aussi bas va souvent être underrated.
Effectivement, parce que. On a une communauté de geeks qui aiment, typique de nous autres aussi, là, qui aiment des grosses affaires. Là. Puis cette semaine, on vous parle de jeux, comme Alex a dit tantôt, qu'on sort pas tout le temps de la Ludo de façon automatique. on va plus graviter vers un Terraforming Mars, un Dune Imperium. Mais qu'est-ce qui s'est joué la semaine passée? C'est essentiellement ça.
Ben c'est ça, c'est Terraforming Mars, Dune, puis il y avait une troisième table qui jouait à Arkham Horror. Donc, tu sais...
C'était pas léger pour ça. Mais il faut quand même se dire que c'est pas tous les jours qu'on joue à des jeux compliqués. Fait que si ça vous tente pas, ou si vous êtes avec des joueurs... Qui veut jouer à des trucs plus simples, même.
Puis c'est un jeu qui va gagner beaucoup à être loué pour jouer en famille ou avec des amis.
Ou à moi, ce que j'appelle du gateway. Dans le fond, quelque chose qui va dire hey, un petit jeu, pas dur, 10 minutes. T'sais, qui n'est pas capable de se concentrer 10 minutes? Bon, il y en a. C'est peut-être pas les personnes avec qui voulaient jouer à des jeux de société, par exemple, ou du jeu de rôle.
De ce que je vois, en fait, parce que je me rappelle la grosseur de la boîte de The Crew, puis je regarde la boîte de Happy City, c'est le genre de jeu aussi. Qui peut se mettre bien dans un sac à dos puis se dire on a 30 minutes à tuer.
Entre deux cours.
Ben oui. Est-ce que je sors à Happy City? On se fait une petite game de Happy City à 3. Et donc, entre deux cours, c'est du bon remplissage, en fait. Là, comme vous avez peu de temps. Au lieu de sortir votre téléphone, vous pouvez sortir Happy City ou The Crew et passer le temps comme ça.
Tout à fait. Puis je pense aussi que, comme on disait tout à l'heure, pour le Gateway, Happy City est un genre de jeu d'engine building. Parce qu'il faut que tu fasses des buildings pour l'argent, mais il faut aussi que tu prévois tes points.
C'est ça. Puis donc, tes buildings qui génèrent de l'argent ne te donneront pas de points.
Généralement pas, ou beaucoup moins.
C'est ça.
Fait que donc, il y a quand même une certaine mécanique de engine building, de préparation de moteur, qui peut être vraiment intéressante. Puis si les gens aiment ça, ça peut être une bonne manière de les orienter vers d'autres jeux plus complexes qui ont des mécaniques similaires.
En effet.
Ils vont déjà avoir une certaine compréhension de la mécanique.
J'avais pas vu l'aspect engine building, mais effectivement, il y a un petit aspect engine. Très simple, là, on s'entend, là, on n'est pas dans le Terraforming Mars.
D'où le gateway, en fait. Là, oui, genre, c'est ça. On va t'introduire à quelque chose de simple, et ensuite, si t'aimes ça, j'ai un petit peu plus complexe, un petit peu plus poussé.
Puis ça, c'est le genre de jeu que vous allez trouver usagé dans un bazar à 5$.
Oui.
Comme le club a fait. il y a un PCT à 5$. Prends-le.
Pas de question à ce prix-là,
c'est ça.
Décision.
Fait que c'est ça pour Happy City cette semaine. Et on va maintenant passer à la partie jeu de rôle Nathan. Et je vois pas de thème de partir, fait que je vais te laisser juste partir, Fred.
Bon, ben parfait. Ben, en fait, je vais présenter Starfinder aujourd'hui. On va commencer par le Smoot pour présenter un petit peu c'est quoi Starfinder, puis c'est quoi l'univers dans lequel ça va se passer. Starfinder, si je peux vous résumer ça au très, 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 très basique et pas tout à fait exact, c'est Pathfinder dans l'espace. Pour ceux qui connaissent Pathfinder,
Pathfinder, c'est un clone de Donjons et Dragons 3e édition.
Exactement. Donc, c'est juste que là, ils l'ont amené dans l'espace.
Il est en train de me dire qu'il y a des dragons dans l'espace, puis des...
Ben oui.
Cool.
Donc, c'est très pratique. Et grosso modo, il y a la planète sur laquelle se passe Pathfinder... qui a un jour disparu. Pouf, plus de planète.
C'est le monde Eberron, je pense. Hein?
Non, Eberron est dans...
Donjons et Dragons.
Donjons et Dragons, c'est Golarion.
Golarion.
Donc,
je suis avec Orion, là, puis ben, je suis vieux, puis confus un peu.
Donc, Golarion a disparu. Mais c'est pas juste Golarion qui a disparu. L'histoire, avec un grand H, a disparu. Donc,
il n'y a plus personne qui se souvient d'où ils viennent exactement.
Exactement.
Il y a quelqu'un qui a souhaité que cette sphère de cristal-là s'en aille, puis qu'il y ait toute l'histoire avec. Pour juste mettre un peu en contexte, les sphères de cristal, si vous êtes un petit peu familier avec Spelljammer, chaque univers, chaque monde de Donjons et Dragons, Kryn, les Forgotten Realms, Golarion, etc., sont comme contenus dans une sphère de cristal.
Exactement. C'est juste que là, c'est dans l'univers de Pathfinder, fait que c'est le même principe, mais...
Ils les appellent différemment.
Ils les appellent différemment, mais c'est le même principe.
On va juste, pour mettre un petit peu de contexte, les gens qui ont créé Pathfinder et Starfinder sont des anciens employés de Wizards of the Coast qui travaillaient dans la production. Puis même, des fois, il y en a de ceux-là, je pense, qui datent même de la période de TSR, qui ont créé Spelljammer, qui ont créé Kryn, qui ont créé Dark Suns, etc., etc. Fait que les autres, dans le fond, ont parti un setting à leur saveur, puis là, ils ont décidé de baser sur le Python Cancel pour faire un autre setting.
Exactement. Et en fait, la façon qu'il l'explique un peu dans le livre, c'est, par exemple, on va prendre l'histoire humaine. Tout ce qui est avant 1820, on a des de l'histoire. Tout ce qui est après 1980, on a de l'histoire. Mais entre 1820 et 1980, il n'y a plus rien.
Tout le monde a oublié.
Tout le monde a oublié. Il n'y a plus rien de physique. Tout le monde a oublié.
Puis quand il manque tout le monde, ça. Quand on dit tout le monde, c'est tout le monde. S'il y a un dragon qui était vivant durant cette période-là, il a legit oublié ce qu'il
a
fait.
Les dieux aussi ont oublié, en fait. Et l'autre truc qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un dieu, à un moment donné, qui est arrivé, peu après le gap qui est appelé dans l'univers, pour faire « Hey, voici un moteur spécial qui te permet de voyager dans l'espace. » Il était déjà dans l'espace au niveau technologique. Il y avait déjà la station, une genre de station spatiale qui est devenue comme une ville avec le temps. Mais ils ont dit, voici un moteur pour voyager dans l'espace. Comment le moteur fonctionne? Tu t'en vas dans une autre dimension, puis tu ressors où tu vas aller.
Un petit peu comme dans Marvel,
oui. Tu rentres dans une autre dimension, puis tu ressors où tu vas aller. Puis en sortant dans l'autre dimension, des fois, ça se peut qu'il t'apporte des bouts de ta dimension avec toi. Genre, si t'es sur une planète qui a un volcan en éruption, ça se peut que tu partes avec le volcan en éruption qui va être à côté de toi dans le drift qu'on appelle.
Puis tu vas-tu le laisser dans le drift ou il va ressortir?
Il peut peut-être ressortir ou il peut rester dans le drift.
Et là, mon cerveau s'en vient à la conclusion naturelle de ça, que des fois tu t'en vas dans le drift puis il y a un volcan.
Ouais, exactement. Il y a des complications.
Qu'il en est là, il est juste là.
C'est ça. Tu sais pas pourquoi il est là, mais il est là.
Donc, j'assume qu'il doit y avoir quand même plusieurs mécaniques de voyage dans l'espace dans Starfinder.
Mais oui. Il y a une des classes qui se spécialise dans le voyage spatio-temporel. Pas temporel tant que ça, plus spatial. Mm-hmm. Mais bref, il y a une belle mécanique de ça.
Puis là, on a dit Pathfinder dans l'espace. Ça veut dire que je peux jouer un wizard.
Ben oui, qu'il y en a des wizards. Ce que j'aime bien du livre de base, c'est qu'il y a une section complète dédiée à transformer les classes de Pathfinder jouables en Starfinder. Tous les changements nécessaires pour passer de Pathfinder à Starfinder sont présents dans le livre.
Donc, si tu as commencé ta campagne de Pathfinder sur 3 niveaux, puis tu es comme moi, on n'aime pas tant les settings, tu peux shifter tout le monde à Starfinder puis les envoyer dans l'espace?
Exactement. Ça la donne bien.
Un Star Trek Discovery.
Ça la donne bien parce qu'il y a un Starfinder 2e édition qui arrive pour être compatible avec Pathfinder 2e édition.
Parce qu'on s'entend que la première édition de Pathfinder est avec la première édition de Starfinder.
Ouais, et donc la 2e édition de Starfinder va être avec la 2e édition de Pathfinder.
On va aller à la pause dans pas très long, mais il y a quand même des différences majeures au niveau du crunch.
Oui.
On va parler un petit peu plus de crunch au retour, j'imagine.
Exactement.
C'est bon. Ben c'est sûr, nous autres, on s'en va payer une petite pause, ça sera vraiment pas long. Puis on vous revient tout de suite après. De retour en ondes à Ludo Radio, à CFAQ 88.3, pour notre dernier segment de la journée où on vous jase présentement du jeu de rôle Starfinder avec Nathan.
Oui, très exactement. Donc, on était rendu à parler un peu de crunch. Règles. Les règles, il y en a beaucoup. Dans un livre d'environ 400 pages, il y a pratiquement 200 pages de règles pures et dures pour nous expliquer les différentes mécaniques qu'il va y avoir dans le jeu. Pour ce qui est, en fait, du combat en général, puisqu'on est dans un futur lointain, il y a beaucoup plus de combats à distance, je te dirais.
OK. Et là, je vais t'arrêter. Est-ce que c'est basé... On a parlé de Pathfinder, qui est un jeu basé race, classe, niveau. Est-ce qu'on est encore basé race, classe, niveau pour notre évolution?
Oui, on est encore basé race, classe, niveau. C'est juste qu'ils ont offert des nouvelles races présentes sur d'autres planètes.
Donc, plus de races, plus de classes.
Plus de races, plus de
classes. Conversion possible de classe de
Pathfinder à Starfinder.
J'imagine aussi des skills parce que navigation doit pas être la même chose.
Exactement, mais il y a tout ça dans l'explication de comment transférer. Il a dit, bon, tel skill va se transformer en tel skill. Ben, ça donne que, mettons, un groupe de skills va tout se transformer dans un seul skill dans Starfinder.
Qui fait qu'il y a de la concentration.
Il y a de la concentration ou justement la création de nouveaux skills, faire comme, bon, ben ça, c'est un nouveau skill qui apparaît, donc tu fais juste l'ajouter à ta ligne de skill. Un truc qui est ajouté, je te dirais, c'est qu'on n'est plus seulement avec un type d'armure. Nous avons une armure qui protège de l'énergie et une armure qui protège des coups standards, l'armure standard des jeux.
Et les armures ne font pas nécessairement les deux super bien.
Non, c'est ça. Donc,
armure de Stormtrooper.
Exactement. L'armure de Stormtrooper n'est pas pire pour les lasers, mais un épée passe bien à travers vu qu'elle est en plastique. Et justement, donc ça, le niveau va dépendre de l'armure que tu vas choisir. Mais il y a certaines armes qui font les deux types de dégâts. Donc, c'est possible que tu passes une armure sans passer l'autre.
Okay. Donc, un petit peu de complexité.
Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est surtout au niveau du maître du jeu et des joueurs de faire comme bon, ben je t'attaque. Ça, c'est en feu, ça, c'est en dégâts, mais je passe pas ton armure de feu. Donc, il n'y a pas les dégâts de feu, mais les dégâts de contondant vont passer quand même.
Okay. Fait qu'on on reste quand même avec les dégâts élémentaux de froid, de feu, d'acide, de son, etc.
Oui.
Qu'on retrouve dans Pathfinder et puis dans Donjons & Dragons.
Exactement. Ça, les dégâts sont. C'est vraiment un copier-coller. Là. Ils suivent les mêmes trucs. Il n'y en a pas des nouveaux.
Je présume aussi que les mécaniques classiques sont de la structure sont là. Il y a encore des feats.
Oui, il y a encore des feats. Il y a encore des habilités. Pour être capable de lancer des dés, ça prend prestige. Des habilités. Non, ça, il n'y en a pas. C'est réellement juste c'est la classe. Okay. Puis,
En tout cas, il n'y en a pas dans le livre de base.
Il n'y en a pas dans le livre de base. Il y en a peut-être dans une des nombreuses extensions parce qu'il y a quand même plusieurs extensions là, pour Starfinder. Mais dans le livre de base, il n'y en a pas vraiment. C'est tu peux multiclasser comme dans toutes les... toutes les settings ou presque, tu peux décider d'aller sur deux classes différentes.
Puis, il y a de la stratification. C'est quelque chose qui n'existe pas dans le vraiment. Ben, qui existe un peu, mais qui est vraiment exagéré dans Starfinder.
Mmh. Oui, dans Starfinder, en fait, c'est qu'à chaque niveau, il va avoir une grosse différence par rapport au niveau précédent.
Donc, tu deviens substantiellement plus fort, c'est
oui,
ça?
Oui, tu deviens substantiellement plus fort, mais les monstres... Il y a des monstres dans l'univers qui sont substantiellement plus forts que vous aussi. Mmh. Contrairement, par exemple, à Donjons & Dragons, vous êtes habitué de vous dire 20 d'armure, c'est beaucoup. Mmh. Je te dirais qu'il y a des monstres à 49 d'armure dans Starfinder.
Et les joueurs peuvent atteindre...
Le 49. Les modificateurs, okay. En fait, sur tes skills et sur ton toucher sont généralement de plus 20, 25 à la fin. Donc, tu sais, ça l'augmente vite, là.
Il est facile d'avoir plus que son niveau dans toutes,
oui.
À peu près.
Oui, oui.
Ce qui est commun à Pathfinder, parce que dans Pathfinder aussi, avoir un plus 24 en sneak, c'est très, très faisable.
Ouais, mais tu vas l'avoir au niveau... 12-13.
Ça va être ça dans Starfinder aussi.
Le niveau 11-12 en dessous de toi peut quand même te menacer avec son... Tu sais, s'il y a assez de niveau 11-12 contre toi, t'es fait, là. T'as pas besoin d'en avoir 6 sur toi. 2, t'es dans le chenoute. 3, t'es mort. Pas dans Starfinder,
non, dans Starfinder, le problème, c'est comme je dis, c'est les combats sont majoritairement à distance. Ça, je dirais que c'est un truc que j'aime moins. Il y a du combat corps à corps, mais c'est à moins d'être dans une petite pièce... Si t'as un fusil qui peut te tirer à 1500 pieds, tu vas te faire tirer avant de te faire taper, non?
Fait qu'on peut pas faire des Léo Major de nous autres, pogner une hache, puis aller tuer 3-4 méchants.
Non, c'est ça, non. Tu peux pas parce que tu vas te faire probablement descendre avant d'arriver. Et ce qui fait en sorte qu'il y a la mécanique qui est présente dans D&D, qui est présente dans Pathfinder, mais qui est peu exploitée, c'est le cover. Full cover, half cover, three.
Et là, peu exploité dans les autres... Très nécessaire dans Starfinder.
Très nécessaire dans Starfinder. J'ai joué des parties où, justement, mes joueurs étaient dans des plaines. Le combat a duré 4 rounds parce que l'ennemi n'a pas eu le temps de se rendre à mes joueurs. Il était mort avant. Juste, il n'y avait pas de cover, puis ben...
Juste pour dire, dans le fond, c'est que normalement, dans Starfinder, les combats peuvent être assez longs.
Oui, parce que si tout le monde est en cover, ben là, t'as des avantages au toucher parce qu'il est caché ou tu peux pas le toucher parce qu'il est caché. S'il est caché, tu peux pas le toucher, fait que tu peux pas faire de dégâts. À des avantages, faire du dégât, c'est plus compliqué.
Puis est-ce que c'est des avantages si tu lances 2 dés, tu choisis le plus bas ou c'est des moins sur le dé?
Ça dépend. Là, la mécanique, selon ce qu'ils ont fait, c'est si t'es à half cover, c'est moins 5. Si t'es au 3 corps couvert, là, t'es à désavantage, tu prends le moins haut. Si t'es totalement couvert, ben, tu peux pas être touché. Là. Donc ça, c'est pas trop compliqué. Mais c'est que ça va dépendre du type de cover que tu vas utiliser. Ça va dépendre du type d'arme que le joueur va utiliser aussi. Parce qu'il y a des armes qui ignorent le cover.
Genre une grenade.
Genre une grenade là, qui va ignorer le cover. Donc, c'est vraiment plus compliqué à... Les mécaniques de combat, en fait, c'est que c'est comme... Comme on est tout le temps à distance, il faut vraiment que tu prennes en considération comment t'es caché, à quel point t'es caché en tant que DM. Ben, est-ce que le muret arrive à hanche ou est-ce que le muret arrive au niveau du torse? Ça va dépendre, ça va justifier. Fait que ça, c'est important à prendre en considération aussi quand tu crées tes maps en tant que DM. Donc, c'est vraiment crunchy. Puis, on n'est pas rentré au niveau du combat de l'espace.
Mm-hmm.
Parce que là, on a des vaisseaux, mais il y a aussi des combats dans l'espace. Il y a les combats de Dreadnought contre Dreadnought, donc deux gros vaisseaux qui ont peu de manœuvrabilité, mais...
Style Star Destroyer,
qui vont tirer des gros coups. Mais qui bougeront pas, fait qu'ils vont être capables d'en recevoir aussi. Mais il y a aussi X-Wing contre TIE Fighter. donc des mécaniques de dodge et compagnie, mais c'est que c'est dur à rendre ça excitant, je dirais, dans l'espace. Parce que même si tu dis « je dodge », mais on est sur une map en 2D, là. Mm-hmm.
C'est dur de représenter de quoi 3D juste sur la map, là.
Exactement. Mm-hmm. Fait que c'est comme plus compliqué. Puis je dirais que les combats sont encore plus longs, parce que les vaisseaux ont plus de points de vie, plus d'armure, plus de trucs, mais font pas nécessairement plus mal.
Est-ce que c'est réparé dans la deuxième édition, ça?
Ça, j'ai pas vu la deuxième édition, okay, parce qu'elle est pas sortie encore.
Elle est en playtest?
Ouais.
Mais on prévoit des changements importants, parce que Pathfinder 1 et Pathfinder 2, c'est le jour et la nuit.
Oui. Mm. Mais là, ça m'amène à un autre point où est-ce que Starfinder et Pathfinder 2 sont très semblables. C'est que c'est pas juste... Le scaling se passe pas juste au niveau des personnages, il se passe au niveau de l'équipement aussi.
Ah oui, oui, il y a une aberration entre les premières armes que tu vas pouvoir trouver niveau 1 puis l'arme de niveau 15. Là. Parce qu'en fait, c'est que dans Starfinder, la façon que les armes sont faites, c'est qu'ils sont liés à un CR, donc le niveau des joueurs. Typiquement, le CR, c'est les CR des monstres pour lesquels ils vont affronter.
Donc, toi, en tant que maître de jeu, si tu donnes une arme 2 CR plus haut à un joueur, tu viens de donner un avantage substantiel.
Tu ne peux pas te permettre de donner des CR plus haut à tes joueurs, mais tu peux pas te permettre non plus de leur laisser leurs moins bonnes armes trop longtemps.
Fait que là, ça demande un GM qui est constamment en train de renouveler l'équipement mais qui doit collaborer à ses joueurs. Fait que... N'importe quel joueur, GM qui aime pas ça, donner des trésors à ces joueurs-là. Essentiellement, vous êtes en train de
jouer à très, très difficile.
Oui, oui, vous êtes en train de mettre le groupe à presque impossible. Là.
Parce que je te dirais que le niveau est quand même plus important que les armes, mais tu peux pas avoir une arme qui est 9 niveaux en dessous de toi.
Parce que le dégât des armes va pas comme dans D&D 5e édition, augmenter de juste 1 avec l'enchantement.
Ça non, c'est des dés. Ouais. Ça augmente les quantités de dés.
Il quadruple de dégâts.
C'est ça. Parce qu'une grenade niveau 1, ça chatouille, puis une grenade niveau 4, ça te transforme en jus.
C'est ça. Donc, c'est vraiment important de maintenir l'équipement de vos joueurs à jour, que ce soit l'équipement défensif et l'équipement offensif. Mm-hmm.
Tu sais, moi, en tant que GM, moi, ça me vient me rajouter, je trouve, du burden.
Oui, c'est l'affaire que j'aime pas aussi. Là. C'est une campagne bas niveau, OK, ou une campagne qui reste dans un niveau dans lequel tu n'as pas besoin de mettre des trucs, ça se fait bien. Mais si tu veux faire une campagne du niveau 1 au niveau 20, là, attends-toi à être obligé de donner des armes, des trucs à tes joueurs.
Beaucoup, beaucoup de préparation. Beaucoup de préparation. Moi, je me rappelle que qu'est-ce qui m'a vraiment fait adopter 5e édition, c'était...
La possibilité de tout faire sur des tables avec des... Je lance tes dés, tu fais tes encounters.
Pas ça, non. C'est la préparation. À 3.5, j'avais 4 heures de prep pour 1 heure de game à la fin, à haut niveau.
Ouais.
À 5e édition, j'avais 15 minutes de prep pour 1 heure de game au même niveau. Fait que c'est comme 12 fois moins de préparation, je vais le prendre.
Oui, non, c'est sûr que c'est agréable. Il y a aussi à prendre en considération qu'il y a des possibilités d'augmenter ton équipement. Certaines armures ont des emplacements pour augmenter tes trucs, donc... Faut que tu trouves une façon d'apporter à tes joueurs le vendeur d'augmentation. Tu peux augmenter de façon cybernétique ton personnage, donc te remplacer ton bras par un bras de métal. Il y a beaucoup de trucs à prendre en considération pour préparer la partie. C'est de longue haleine, je dirais.
Donc, un jeu qui a quand même un smoothie intéressant, un crunchy, je te dirais que... Ben, faut vouloir.
Oui, faut vouloir, oui. Je dirais que faut le vouloir.
Est-ce que tu trouves... Pour les parties que tu as eues, est-ce que tu trouves qu'il vaut la peine, ce jeu?
Moi, personnellement, j'aime bien... Je suis attiré sur ce jeu-là plus au niveau du setting, je dirais. Donc, de la façon que ça se passe, de la façon que c'est présenté, les informations fournies. Tantôt, je parlais des planètes qui ont comme quoi ils ont des statistiques. Mais chaque planète a 2 pages de description sur ce qui se passe sur la planète, c'est quoi l'environnement, qui vit là. Donc, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de trucs. Mais le crunchy de préparation puis de combat, c'est comme...
Un syndrome Shadowrun, donc.
Oui.
Un jeu qui a de l'air super intéressant jusqu'à ce que tu tombes dans le crunch où là, t'as besoin d'un nerd puis d'assistance informatique pour
l'assistance informatique n'est pas nécessaire, je dirais.
C'est pas le niveau de Shadowrun.
C'est juste que si tu te prépares une aventure, au lieu de la partir puis de préparer tes sessions au fur et à mesure, prépare l'aventure puis ensuite joue-la.
Donc, est-ce qu'il y a des modules préfaits pour...
Oui, il existe... À ma connaissance, il en existe comme 8 ou 9, je crois, des modules préfets. Là, c'est... On en a un au club, d'ailleurs, qui est le module d'introduction qui est présent au club.
Ben écoute, merci Nathan pour cette présentation. L'émission tire à sa fin. On a quelques petites annonces à faire. Oui. On a un conseil d'administration public au CJRSS qui va être tenu...
mercredi prochain, donc le 27 mars.
Donc on va pouvoir vous le rappeler à notre prochaine émission.
Mm-hmm. C'est juste avant la soirée Board Game, donc si vous avez un petit peu plus tôt. Nous autres, je vous rappelle tous les amis de vous amener un lunch parce que c'est en présentiel.
Mm-hmm.
Oui. Dans le fond, l'idée, c'est que ben on a beaucoup d'officiers qui vont devoir quitter pour des raisons de...
j'ai fini mes études.
L'université achève. Il faut penser à d'autres choses. Puis, moi, que tu travailles à l'université où là, ça peut-être se justifier, il faut laisser la place à la nouvelle génération. Fait que là, dans le fond, on appelle la nouvelle génération. On a notre soirée de jeux de société.
Ce soir.
Ce soir, 1-0-0-0-1.
Et comme j'ai laissé sous-entendre tout à l'heure, on a quelque chose qui se passe le 7 avril.
En effet.
On a officiellement une soirée board game, une journée.
Oui,
le board game.
C'est un dimanche.
Mm-hmm.
Des fois, on le fait le samedi, des fois, on le fait le dimanche. C'est en fonction des disponibilités qu'on a. Mais habituellement, dimanche, on a quand même, quand on fait ça juste le dimanche, on a une bonne participation.
Il faut juste plus les faire la fin de semaine au complet.
Dans le fond, parce que...
Donc, on vous invite tous. Le 7 avril, si jamais les mercredis soirs fonctionnent moins pour vous, venez en profiter. On est là toute la journée.
Surveillez le groupe Facebook du CJRSS. Donc, oui. facebook.com/groups/CJRSS où toutes nos annonces vont être présentes.
Compris l'horaire de cet événement-là quand il sera prêt.
Sur ce, mon studio va se faire envahir dans pas longtemps. Fait qu'on va vous laisser avec ça. Bonne fin de journée.
Bonne fin de journée
tout le monde.